La forêt qui cache la forêt avec Nicolas Bell.
On peut citer le Morvan, où on est en train de remplacer les forêts mixtes de feuillus par des forêts résineuses. La proportion est exactement inversée. Il y a 50 ans à peu près, il y avait 60 ou même plus de pourcentage de forêts résineuses, des très très beaux forêts de chênes, belles forêts de chênes, en Bourgogne, dans le Morvan. Maintenant, c'est inversé. C'est 70 ou même plus de pourcentage de forêts qui sont résineuses. Donc c'est une option, malheureusement, qui est comme un écosystème. Il faut avoir une couverture permanente avec différents âges, etc. Voilà, donc nous, on a un gros problème en France. Mais là où moi, je me suis particulièrement... Les photos qui déroulent là concernent particulièrement la campagne que nous avons rejoint, en quelque sorte, en 2013, octobre. Nous avons découvert que dans notre région, il y avait le plus grand projet de centrale à biomasse en France, à Gardanne. C'est une centrale à charbon qui allait être en partie convertie en centrale à biomasse. Donc, cette centrale a besoin d'environ 850 000 tonnes de bois par an, sous forme de plaquettes, qui vont être brûlées avec un rendement de 30%. D'efficacité, parce que c'est uniquement pour l'électricité. Il n'y a aucune cogénération, donc on n'utilise pas la chaleur. Pour donner une petite image, ça veut dire qu'on coupe 10 arbres dans un coin reculé des Cévennes, ou à la limite maintenant, plutôt au Canada, en Amérique du Nord, parce qu'on importe au Brésil. Le premier bateau de 40 000 tonnes de plaquettes est arrivé pour cette centrale de Brésil. Alors, on va couper 10 arbres. On va les transporter sur des petites routes. On va les déchiqueter avec beaucoup d'énergie pour créer donc des plaquettes. Ensuite, on va les à travers l'Atlantique ou alors 100, 150 kilomètres peut-être avec des camions. Après, on va les amener à Gardanne, on va les brûler. Et 7 arbres sur 10 ne servent uniquement à chauffer le ciel et à polluer l'environnement. Parce que c'est ça le rendement à 30%. Hein. Il y a 3 sur 10 qui servent à quelque chose, en gros. Voilà, donc il y a... Moi, je pourrais parler au moins 5 heures sur Gardanne, c'est pas un problème. Il y a tellement de choses qui sont absolument et totalement invraisemblables avec ce projet. C'est un projet extrêmement grave pour la santé publique. Les particules fines qui sortent des grandes cheminées de centrales à biomasse sont gravissimes pour la santé. Les poussières de bois, quand on déchiquette le bois, c'est ultra grave. Et il y a des poussières maintenant de bois dans les jardins et les piscines des voisins. Parce qu'en partie, on va déchiqueter le bois sur place à Gardanne, qui est une ville fortement occupée, habitée. Je veux dire, il y a une école et un lycée à quelques centaines de mètres, quoi. Et on est à 15 km de Marseille. Donc la pollution sera énorme. Il y a le problème de gaspillage abominable de fonds publics. L'État français, c'était M. Besson, le célèbre M. Besson, qui a autorisé ce projet en octobre 2011 sous le gouvernement de M. Sarkozy. Donc, parce que ces grandes firmes comme E.ON, c'est le propriétaire de la troisième multinationale d'électricité au monde, cette entreprise ne ferait pas ça s'il n'y avait pas le soutien public, parce que ce ne serait pas rentable. 70 millions d'euros par an pendant 20 ans. Ça fait 1,4 milliard de subventionnement public. Et attention, je pense que tout le monde ici dans la salle consomme de l'électricité, probablement. Alors, vous avez une facture. Et sur la facture, c'est la ligne CSPE qui est destinée en partie à financer les énergies renouvelables en France. C'est ça qui paye les subventions à E.ON. Donc c'est nous et vous. Voilà. Ça vient de là, les subventionnements pour E.ON. Bon, on pourrait dire énormément de choses. On a trouvé un collectif fort actif à Gardanne, mais petit, est considéré comme traître par le CGT et le maire communiste, qui considèrent que le cheminée de Gardanne doit cracher du fumée tout le temps. C'est ça le signe de progrès. Donc, ils n'ont pas eu de soutien localement, et pendant 2 ans, ils ont essayé de se battre avec des arguments, comme je viens de dire, un camion tous les deux minutes dans les rues de Gardanne pour amener le bois, etc. Bon, heureusement, quelque part, nous, on a entendu parler de ce projet 2 ans plus tard, en 2013, parce que nous avons découvert que notre région, qui est les Alpes d'Haute-Provence et un peu les Hautes-Alpes, entre Forcalquier et le nord de Gap, pour ceux qui connaissent, comme les Cévennes, c'est les deux zones d'approvisionnement prioritaires d'E.ON pour fournir ce qu'ils appellent le bois forestier pour cette centrale. Donc on s'est dit, ah, ben alors il faut réagir, parce qu'on ne savait pas, il n'y avait aucune démarche, ni de l'État, ni d'E.ON, d'informer la population locale ou les élus locaux. Ils ne savaient pas. C'est moi qui ai informé les élus locaux, parce que moi j'ai commencé à distribuer des tracts, après avec d'autres. Et c'est comme ça que les collectivités locales ont tout d'un coup compris que notre zone est prévue d'être coupée en grande partie, ou au moins en tout cas il y aura des coupes, pour cette centrale. Et il faut dire que ça a créé une énorme réaction localement. Et actuellement, en gros, 500 collectivités locales qui ont adopté des motions contre ce projet. Il y a une douzaine de communautés de communes, il y a 3 parcs, il y a les 2 départements 04-05. Bon, ils ont tous adopté des motions contre. Il y a 3 recours juridiques contre le projet et le dernier a été déposé par 4 collectivités locales ensemble, ce qui n'arrive pas tous les jours en France. Donc 2 communautés de communes et 2 parcs. Or, rien. Aucune réaction de la justice. Enfin, c'est le tribunal administratif, j'imagine, je ne rappelle plus. C'est pas moi qui... Je ne m'occupe pas trop de questions juridiques, mais c'est typique. C'est un peu ce qu'on a vu à Stevens ou ailleurs. À la limite, une fois que c'est en train de marcher, on va dire, finalement, c'est une bêtise, quoi. Je vais vous raconter un dernier petit chapitre. Après, on peut laisser le reste pour le débat. Moi, ça s'entend peut-être un tout petit peu, je suis britannique. Alors, j'ai découvert que Gardanne est strictement vraiment du pipeau, quoi. Quand on regarde la Grande-Bretagne, une seule centrale qui s'appelle Drax, qui est dans le Yorkshire, qui est la plus grande centrale à charbon, je crois, au monde, en tout cas en Europe, va être comme Gardanne, convertie à biomasse. La moitié est déjà fait. 7 millions de tonnes de bois par an pour cette seule centrale, et c'est que la moitié. Et Drax essaye maintenant d'avoir la deuxième moitié, l'autorisation. Ça ferait 15 millions de tonnes de bois pour une seule centrale. Donc c'est 20 fois Gardanne. D'où vient ce bois? La Grande-Bretagne n'a pas beaucoup de forêts. C'est un projet entièrement basé sur les importations. Les photos que vous avez peut-être vues avant, assez terribles, avec des coupes rases, notamment un sur une colline, ça c'est au Canada. Il y a d'autres photos qui viennent des États-Unis. Il faut savoir que maintenant, on est en train de couper les forêts de feuillus dans des zones humides dans le sud des États-Unis. C'est parmi les endroits les plus riches en biodiversité de la forêt, les zones tempérées, si on veut. Ils sont en train d'être massacrés pour l'utilisation unique des centrales à biomasse en Europe. Gardanne va importer minimum 50, et moi, mon hypothèse, c'est 80% de ses besoins par des importations. Ça veut dire qu'on va aller détruire les forêts ailleurs pour avoir 30% de rendement pour l'électricité chez nous, dont on n'a même pas besoin. Mais ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourrait évoquer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que cette affaire de bois énergie à l'échelle industrielle est une affaire planétaire. C'est quelque chose qui va avoir un impact partout. On estime actuellement que si on fait tout ce qu'on a dit, il faut savoir 60% des énergies renouvelables en Europe sont bois énergie, sont des bioénergie. Si on va jusqu'au objectif de l'Union européenne, dans 10-15 ans, la totalité de toutes les forêts en Europe doivent uniquement servir pour le bois énergie, pour l'énergie. Donc plus rien pour autre chose. Et il faut imaginer qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays, dans les autres continents. On est en train de planter des arbres génétiquement modifiés au Brésil, en Afrique et dans plein d'autres pays pour les besoins de nos centrales ici en Europe. Donc c'est assez horrible tout ça. Heureusement, il y a des gens qui luttent contre ça, mais aussi des gens qui essayent... Ça, c'est le montagne de Lure, c'est tout près de chez moi. C'est des gens de coupe qui existent maintenant. Ce n'est pas pour garder ça. Mais je mets cette photo-là pour que vous compreniez que malgré... Ça, c'est une usine de pellettes. C'est des trucs immondes dans le sud des États-Unis. Il y a soi-disant des plans simples. Il y a des plans simples de gestion en France. Il y a une réglementation par rapport aux forêts. Le problème, c'est que ce genre de coupes qu'on vient de voir sont tout à fait possibles avec un plan simple de gestion, dans notre zone en tout cas. Donc, il ne faut pas imaginer, comme beaucoup disent, que tout va bien en France, qu'il y a les protections, les réglementations et tout. C'est loin d'être le cas. Je tiens maintenant à peut-être passer à peut-être un côté plus moins catastrophique et plus positif, parce que heureusement il y a des alternatives qui existent, et je pense que c'est peut-être Lolo qui va parler un peu plus de ça, ou peut-être Ruth, tu veux dire quelques mots avant. Je prépare le...
Je trouve qu'il faudrait peut-être juste souligner que tout ça se fait au nom de l'écologie. Je pense que c'est important de comprendre que cette nouvelle source d'énergie s'appelle source d'énergie renouvelable, et de fait le bois c'est renouvelable, sauf que si on détruit toutes les forêts, elles n'ont plus le temps de se régénérer. Le bois c'est censé être quelque chose de formidable, de sain, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation, une instrumentalisation des préoccupations qui sont maintenant très largement partagées dans la société au profit de nouveau de la voracité industrielle et d'un modèle qui est tout sauf soutenable, quoi, qui est tout sauf pérenne. On est vraiment dans un système de destruction massive et rapide, au nom de l'écologie. Donc c'est important de se rendre compte de ça. Voilà, et maintenant, si tu es prêt, peut-être Lolo peut prendre la parole. Alors attendez, on va vous passer un micro. On va vous passer un micro parce que comme c'est enregistré, si vous souhaitez intervenir tout de suite, et ça a l'air urgent, on va commencer par, par ça.
Bon, votre exposé était très très intéressant, mais enfin il y a quand même des contre-vérités, puisque la forêt française souffre de sa sous-exploitation et pas de sa sur-exploitation. Et c'est un des problèmes qui est lié à un ensemble de choses qu'on pourra évoquer après. Évidemment, si on va dans un autre sens, on ira à la catastrophe. Mais on peut trouver l'équilibre parce qu'on est dans un pays d'équilibre.
Moi, je ne sais pas si on lance le débat maintenant. En tout cas, juste rapidement, je conteste totalement cette affirmation personnellement, mais je suis relativement mal placé parce qu'en gros, j'ai écouté... entre autres Gaëtan Debusque et d'autres qui sont dans le réseau, et plein d'autres gens, parce que j'interview énormément de gens pour Radio Zinzine sur ces sujets-là, et ils contestent absolument le fait que c'est nécessaire ou disons obligatoire d'exploiter les forêts. C'est tout à fait possible de les exploiter nettement moins, c'est absolument aucun problème. Et nous, on n'a jamais dit qu'il ne faut pas les exploiter. En plus, exploiter, je n'aime pas trop les mots, mais de travailler et même vivre dans la forêt. Donc, je veux dire, c'est justement parce qu'on pense qu'il y a vraiment autre chose à faire dans la forêt, que, par exemple, que Lolo il va raconter. Peut-être c'est mieux de regarder ce qu'il va raconter maintenant, et après on peut prolonger le débat par la suite.
Merci à tous d'être venus écouter ce débat. Effectivement, l'écologie en forêt, disons la vie en forêt, paraît possible en France, puisqu'il y a effectivement de nombreux massifs forestiers qui ne sont pas tous une forêt comme on l'entend. C'est-à-dire, toutes les forêts ne sont pas des forêts comme dans le sens verbal comme on l'entend. Ça veut dire les forêts de plantation ne sont pas des forêts aujourd'hui. C'est des massifs boisés à but d'exploitation, mais ce n'est pas aujourd'hui des forêts. C'est-à-dire qu'en tout cas, elles n'accueillent pas une grande biodiversité, en tout cas pour les quelques années qu'on leur laisse vivre, quoi. Donc les forêts, comme on peut voir sur les images, sont des forêts diversifiées et régulièrement feuillues, peuvent effectivement permettre pas mal de choses et d'espèces de vivre. Voilà, ça c'est pour clore le petit sujet sur la polémique. Donc voilà, nous, on vit en Haute-Ardèche et on a... De par notre environnement, on s'est axé à travailler la forêt. On a travaillé de manière, on va dire, normale, donc mécanisée. Et rapidement, la violence du résultat nous a un peu dérangés. Et on a décidé d'agir de manière plus délicate, grâce entre autres à la rencontre de plusieurs intervenants forestiers qui, eux, avaient déjà une démarche de gestion douce. Et voilà, avec notre système, on a réussi à avoir une attitude économique et à peu près écologique, de travail en forêt et puis finalement de transformation du bois qui nous permet de subvenir à nos besoins. Voilà. Donc le principe de notre manière de travailler, c'est de récolter les arbres pied à pied. Ça veut dire de ne pas faire une gestion massive sur une forêt, mais de proposer une récolte plus délicate. Et entre autres aussi de valoriser chaque arbre du mieux possible par un système simple qui s'appelle la filière courte. Ça veut dire aussi donner envie aux gens d'avoir un produit qui a une provenance à peu près éthique. Et voilà, c'est pas en faisant des grands discours qu'on y arrivait, mais c'est en pratiquant sur le terrain. Et ça tourne, quoi. Voilà. Donc on voit d'abord les forêts typiques de nos régions qui ne sont pas encore toutes envahies par les plantations. Mais 90% de l'énergie mise en forêt chez nous est axée sur la récolte des plantations. Il y a des techniciens qui sont mis à 80% de leur temps pour la récolte des plantations, pour alimenter une filière en général industrielle, qui a besoin effectivement de bois calibré, dimension homogène. C'est pour ça que le Douglas s'y est bien prêté. Et le Douglas, c'est un arbre américain qui est un bois botaniquement très intéressant, biologiquement aussi. Mais il n'y a pas de raison qu'ils prennent le dessus sur les autres végétaux. Nous, on continue on a accepté ces arbres étrangers qui sont adaptés à nos régions. Et au lieu de les exploiter de manière systématique, on essaye de les inclure dans une gestion globale. Donc de ne pas les raser, mais de d'en enlever quand même une partie qui permettra de faire revenir d'autres végétaux et d'autres essences plus locales. Donc inclure cette essence extérieure dans nos forêts. Voilà. Donc notre idée première, c'est de ne pas recommencer à zéro chaque exploitation, donc de ne jamais pratiquer la coupe rase, sauf en cas de défriche agricole ou choix technique précis. Mais voilà, donc on ne fait pas ça. Nos bois sont exploités en majeure partie par la traction animale. Pourquoi la traction animale ? Simplement que techniquement, la récolte de bois, même de gros bois, de manière mécanisée, nous obligeait à créer des pistes ou à créer ce qu'on appelle des cloisonnements. Donc on modifiait l'environnement naturel de la forêt pour une récolte qui est souvent tous les 50 ans. Ça nous paraissait pas un bon compromis. Donc l'animal nous a permis de mieux nous faufiler dans les massifs, d'arriver à récolter un bois très serré, complètement inaccessible. Voilà, bon, ça nous a permis cette solution. Mais ça nous a permis aussi d'inclure la gente féminine dans le travail forestier, ce qui semble tout à fait bizarre de dire ça, mais en forêt, il y a très peu de femmes. Et l'attraction animale a vraiment permis que nos copines et d'autres femmes rentrent en forêt et nous apportent aussi un peu de délicatesse. Voilà, ça c'était important de le préciser. Alors notre lieu, il est devenu assez connu et aujourd'hui on fait beaucoup de formations, que ce soit en traction animale, on utilise le débardage comme support pour la formation avec les chevaux, et la gestion forestière où on propose dans nos forêts de faire des semaines, des sessions de travaux forestiers sans un but de récolte, mais dans un but plus de formation et de pédagogie. Donc il n'y a pas de stress de rendement. Ça nous permet d'accueillir des gens de tout âge et des gens qui cherchent une autre possibilité de vivre de la forêt. Il faut comprendre que dans le monde forestier, on est tous dans une grande frustration. Parce que on peut le voir dans le monde de l'ONF, par exemple. Beaucoup de choses sont faites à contre-cœur pour les gens de ce métier. On nous pousse à produire avec des gros engins qui sont très chers. Et du coup, finalement, à ne pas faire le travail qu'on aimerait faire. La majeure partie des gens de la forêt ont envie de travailler comme il faut, mais ne peuvent pas le faire pour des raisons financières. Et sont complètement comprimés par toute cette grosse Bertha qui nous dirige. Voilà, donc aujourd'hui, pourquoi on monte ces images, pourquoi on discute, c'est aussi pour, espérons-le, donner envie aux gens. C'est possible de faire autrement. C'est possible d'aller vers une gestion douce et malgré tout économique. On n'est pas à nous, ça fait 45 ans qu'on existe. Ça fonctionne et voilà le but final des forêts exploitées, au-delà d'une production économique, c'est aussi un environnement de vie, des lieux de vie qu'on doit partager, qui ne nous appartiennent pas, qui sont certainement pour les générations futures. Et voilà, donc c'est un moment de partage qui est important. Nous, ça nous fait vivre, c'est notre passion. On se déplace un peu partout en France, alors que ça serait quand même plus cohérent d'arriver à trouver des partenaires dans toutes les régions. C'est pour ça qu'on se déplace, pour motiver les gens, trouver des complices. Et nos bois sont en général transformés en charpente. Et pourquoi il n'y a pas de charpente là ? Donc les bois sont sciés, on a une scie mobile, donc on scie le bois sur les chantiers quand on peut, sinon à proximité. Et les bois finissent en général en construction. Ce qui fait aussi qu'on a une souplesse économique dans le travail forestier, puisqu'on fonctionne de manière avec une économie globale. C'est-à-dire que ce soit la charpente ou le travail forestier, c'est la même économie qui va gérer la filière de A à Z. Donc c'est encore une fois éviter le cloisonnement, que ce soit en forêt ou que ce soit dans les métiers. Voilà, plus de partage, plus d'échanges peuvent permettre de trouver des bonnes solutions. Et voilà, aujourd'hui, l'attraction animale n'existe quasiment plus en forêt. On doit être une vingtaine en France. Il y a des groupements de débardeurs qui cherchent du travail aussi, qui cherchent des propriétaires qui seraient prêts à s'engager avec eux. Donc ça, vous pouvez facilement trouver les contacts. Tous ceux qui sont propriétaires, à mon avis, doivent essayer de faire cet effort, d'aller vers des gens qui sont dans des logiques plus délicates. Voilà, on est responsable. On est tous responsables de ce qui se passe en forêt, même quand elle ne nous appartient pas. Et il ne faut pas aller toujours dans la protestation, il faut aussi y aller dans la construction. Et bon, ben voilà, en tout cas, le secteur est ouvert. Et on est prêt à accueillir pas mal de gens dans nos démarches de formation, dans nos échanges. Et bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, on n'est pas obligé de faire tant de discours. On va, si on peut, les laisser défiler et puis engager un peu de questionnements sur comment ça peut fonctionner tout ça, si ça vous intéresse.
Oui. Ben, merci de ce que vous avez dit. François Guillemard, je suis président de la filière bois du Rhône et vice-président Rhône-Alpes Auvergne. Je voulais juste préciser, pas s'il y a à préciser, mais continuer un petit peu dans le débat qui a été lancé. Aujourd'hui, on a 95% de notre forêt qui est privée, avec des parcelles moyennes. Alors, je parle du Rhône. Hein, 95% privée, la moyenne des parcelles est d'un hectare et demi. Donc, on a des petites parcelles très morcelées. D'où l'intervention tout à l'heure de la personne disant « notre forêt est sous-exploitée ». C'est vrai que ces petites parcelles n'aident pas à avoir un plan de gestion forestière et n'aident pas à cultiver cette forêt. Ceci dit, aujourd'hui, je suis tenté de reconnaître que si on avait des grandes étendues de parcelles, des très grandes parcelles, on a un réel risque d'industriels qui demandent des coupes d'arbres de plus en plus jeunes, de plus en plus petit, et sachant qu'un arbre jusqu'à 50 ans ponctionne le sol, et au-delà de 50 ans, il commence à rendre ce qu'il a pris au sol. Et un Douglas, par exemple, entre 50 et 60 ans, va doubler son mètre cube de bois rouge, donc le bois qui est le plus utilisé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas anti-coupe rase, parce que avoir des coupes rases comme pour récolter un champ de blé, c'est possible, et c'est pas forcément signe d'une destruction du sol. Mais modérer la façon de produire, le travail de coupe jardinée qu'on voit de plus en plus, est aussi une alternative extrêmement intéressante et à utiliser. Si effectivement on fait des coupes rases avec des andins dans le sens de la pente, donc on ramasse, on ratisse le sol et on le met en tas dans le sens de la pente, on a de l'érosion et on casse la richesse du sol, l'humus du sol. Alors, on casse la fertilité du sol. Là, on a des soucis. Attention aux idées reçues aussi. Une forêt qui peut vous paraître sombre ou dire le Douglas, par exemple, appauvrit le sol, c'est pas forcément vrai. Une forêt de hêtres qui est très belle. On voit plein de posters avec les belles feuilles mortes qui pourrissent pas dessous. C'est un sol très acide. C'est très beau à l'œil, mais ça s'appauvrit aussi. Donc, faut relativiser et adoucir un peu tout ça. Aujourd'hui, on a une vraie... Enfin, nous, on a l'impression, sur le Rhône, en tout cas sur le Rhône, c'est sûr, d'une prise de conscience des communes...
Attention, parce que là, votre micro, il est parti sur le côté...
Pardon. Des communautés de communes. J'ai moins de professionnalisme que vous. On a des soucis avec... Les élus ont un vrai souci d'avoir une approche... écologique, en tout cas durable de la forêt. Ça, au moins, c'est et une mixité de la culture. On ne veut pas aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, les élus annoncent plutôt ce besoin-là. Et puis, juste un petit exemple sur les Savoies. Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec l'exploitation en forêt par câble. Là, vous avez une exploitation par câble qui passe en photo. On l'a par ballon aéronef, ce qui fait qu'on évite de labourer et d'esquinter le sol. Voilà des petites choses, des petites attitudes, des petites choses qui sont pas inintéressantes à mon sens. Et pour en finir, sur la production thermique, alors nous, filière bois, on défend terriblement le bois d'œuvre, en premier et en priorité. Et on défend, alors là de façon très claire et très nette, des petites unités de production. L'intelligence du bois dans la production énergétique et s'il est secondaire, c'est-à-dire on ne cultive pas pour faire des centrales, on récupère ce qu'on appelle les rémanents, donc les tailles, le nettoyage des parcelles pour faire des petites unités consommées sur place à moins de 30 km. Effectivement, des grosses unités sont à notre sens quelque chose d'extrêmement dangereux. Merci.
Lolo ?
Bon, je vais essayer de répondre un peu sur le... effectivement, la France c'est 70% de la surface française qui est privée. Ces 70% aujourd'hui sont comme tu viens de le préciser, le seul barrage à une exploitation massive. Alors qu'elle soit bien exploitée, mal exploitée, au fond, c'est pas tellement le détail. C'est que c'est quand même scandaleux que ce soit le seul barrage pour éviter les exploitations massives. Ça veut dire qu'en tout cas, étatiquement, il y a eu des choix inverses de production massive. Donc on s'est fait voler quand même déjà les acquis de la Révolution qui se font vendre aux industriels. Bon, ça c'est quand même un souci. L'ONF commence à vendre aujourd'hui des domaines forestiers qu'ils avaient en gestion. C'est aussi ce qui a motivé les assises de Gardanne avec les syndicats de l'ONF. C'est SOS Forêt. Parce que effectivement, l'ONF allait jusqu'à aujourd'hui décider de vendre des parcelles, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Et ça a été un traumatisme pour énormément de techniciens qui ont choisi de faire du bruit et qui essayent de lutter contre ça. Bon. Après, sur la manière d'exploiter, le choix d'exploiter, sincèrement, la forêt n'a pas besoin de l'homme. C'est clair et net. D'où les forêts tropicales et tout. Je veux dire, nous, aujourd'hui, on est dans une logique de pillage ou éventuellement de récolte qu'on considère raisonnée. Soyons logiques, on utilise le bois parce qu'on a des besoins techniques, parce qu'on a besoin d'argent. Mais on n'utilise pas on travaille pas en forêt parce que la forêt a besoin de nous. Mais moi-même aussi, hein, je travaille la forêt, mais je le fais parce que ça me passionne. Mais en même temps, il y a un côté irrationnel de pouvoir. Je veux dire, on ramasse des bois qui, au fond, nous ont rien demandé. Donc, assumons cette contradiction, assumons-la comme il faut. On intervient en forêt pour des raisons économiques et techniques, uniquement pour nos besoins, pas du tout pour la forêt. Donc de là, les gestions à tire-larigot riment à rien. D'aller chercher des forêts, raser des petites parcelles pour faire du bois énergie, c'est complètement stupide. Et là, chez nous, en Ardèche, on a énormément de petites parcelles. C'est très morcelé, c'est très accidenté. On fait des pistes pas possibles pour récolter 300, 400, 1000 mètres cubes. C'est des volumes ridicules. Mais on massacre des régions entières pour une récolte qui, souvent, n'apporte même pas d'argent aux propriétaires. La marge réelle en bois énergie ultra mécanisé, c'est 1 euro par tonne. Les techniciens vont faire des coupes à cette échelle pour 1 euro par tonne. Donc c'est complètement même débile économiquement. Et le fait d'avoir un tel besoin de rendement, puisqu'on met du matériel très très gros qui est très lourd, ça nous oblige à ne pas avoir le temps de trier le bois. Donc les bois ne sont pas triés dans le bois énergie, dans 90% des cas. Et donc c'est vraiment une discussion. On ne récolte pas les rémanents. C'est pas rentable d'aller récolter des rémanents avec une machine de 300 000 euros. Voilà. Donc en plus, le bois énergie, en général, c'est des bois entiers. exporter avec leurs branches pour rationaliser le travail. Et ensuite, voilà. Donc le bois énergie, à toute petite échelle, se défend peut-être, mais se défend de toute façon pas dans la grande industrie. Ça, c'est pas négociable. Ensuite, sur le travail, toutes les combines, montgolfières, câble-mât. Le câble-mât, donc câble aérien, c'est une technique montagnarde utilisée aussi dans les marécages. Comme on a montré quelques images, là, on en a fait un peu aussi. C'est très intéressant. Mais en même temps, ça va être l'engin qui va permettre d'aller exploiter les forêts où on ne peut pas aller, même avec les chevaux. Donc c'est ça la contradiction. C'est qu'en fait, on trouve toujours des combines pour aller chercher le bois, chercher la ressource minière où elle est, quelles que soient les conséquences. Voilà, donc il y a, à part une des filières courtes, viables, et beaucoup de petites structures, on n'arrivera pas à trouver une solution. Moi, je prône la filière courte à tout prix, et les petites structures, et surtout le côté social en forêt. Pourquoi on met moins de machines ? Parce qu'il y a plus d'hommes. C'est ça, il faut revenir à cette manière de travailler. C'est un échange humain avant tout, quoi. Voilà.
Je voulais rajouter encore une partie de réponse parce qu'il y avait la partie effectivement sur la propriété privée et les petites parcelles. Et je voulais juste raconter une petite histoire qui montre à quel point c'est complexe quand même, c'est difficile. Dans notre région, donc il y a la montagne de Lure qui est pas loin de Fort-Calquet où j'habite et on a vu des photos là avec des coupes. Bon, c'est un grand massif avec beaucoup de forêts, mais effectivement beaucoup de petites parcelles. Alors, il y a ce qu'on appelle les chartes forestières. Je pense que pas mal de monde connaît ça. Il y a les chartes forestières qui se mettent en place de territoires qui, a priori, ça devrait être, en tout cas, quelque chose d'intéressant parce que ça réunit des acteurs très différents, y compris des randonneurs, des touristes, enfin, tout ce qu'on veut, les chasseurs, enfin, plein de choses. Nous, on a une charte forestière de la montagne de Lure. Maintenant, ils ont rejoint le parc de Luberon, donc c'est Luberon-Lure. Le monsieur qui a mené ça, qui était l'animateur de cette charte forestière pendant très longtemps, il a créé des projets pilotes. Le premier projet pilote, il était extrêmement fier de ce projet pilote, c'était la ASL, donc l'Association syndicat libre de la Rochiron, qui est une commune dans la montagne de Lure. Une association syndicat libre, ça permet de regrouper des petits propriétaires et de créer un massif, disons, d'ouvrir un massif de faire des pistes, etc. Eux, ils ont fait ça, au début en tout cas, avec une vision, je dirais, vraiment assez correcte de comment ils voulaient travailler, en fait. Le problème, c'est que cette piste existe. Aeon arrive dans la région. Ils ne montrent que ça. Des zones qui sont ouvertes par des pistes, des grandes pistes, où avant, il n'y en avait pas. Avant, les gens cherchaient pour l'affouage ou pour un peu de bois de chauffage, mais il n'y avait pas la possibilité de chercher des grandes quantités. Or, il y a aussi une plateforme qui a été créée chez nous pour le plaquette, à Bannon, avec la communauté de communes qui était pour ça, etc., une grande volonté, et c'était pour les petites chaufferies locales, magnifique comme image, etc., comme vision. Or, effectivement, Aeon arrive. Et M. Martinez, qui était l'animateur de la charte forestière, a été embauché depuis un an par Aeon. Et on comprend maintenant qu'en 2009, Aeon a commencé à circuler dans la région, qui a commencé à se dire où est-ce qu'on pourrait créer la possibilité d'entrer dans ces massifs où il y a des petits propriétaires. On va habiller ça avec beaucoup de bonne volonté, par pas mal... Les élus, plein de gens trouvent que c'est une très bonne idée, mais derrière cela, en tout cas dans notre cas, il y avait déjà depuis 7-8 ans une stratégie pour créer des pistes, pour aller dans des massifs, pour créer une plateforme capable de faire des plaquettes 10 à 15 000 tonnes par an, ce qui n'est pas énorme, mais ce n'est pas petit non plus. Et tout ça par ce monsieur Martinez qui finalement est pris par Aeon parce qu'il a tellement bien fait le boulot. C'est pour dire à quel point c'est compliqué, parce qu'effectivement, ça peut être intéressant pour un petit propriétaire, faire un travail correct, de sortir un peu plus de bois, d'avoir un petit revenu, d'amener le bois chez un scierie local, etc. Mais c'est très compliqué avec la situation actuelle d'avoir des contraintes suffisantes qui vont empêcher que ce genre de structure est utilisée pour toute autre chose par une grande entreprise comme Aon. Voilà.
Oui, oui, il y avait quelqu'un.
Je profite, on m'a donné
d'accord,
le micro.
Et puis après, ça sera au deuxième rang.
Oui. Nicolas Bell, comme François Guimard, disent l'industrie demande du petit bois. Est-ce que ça veut dire qu'on a, préparé l'outil industriel à n'exploiter que du bois jeune et pourquoi l'a-t-on fait? Et puis peut-être une deuxième question, les circuits courts, qu'en est-il réellement dans les massifs alpins, par exemple? Alors moi, je suis clermontois, je ne suis pas lyonnais. Il me semble que dans la Drôme est apparu les premières AMAP bois, par exemple. On consomme pour le chauffage du foyer beaucoup de bois dans nos massifs. Qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, j'ai pas une bonne mémoire, donc je vais essayer de répondre. Les filières courtes, il y a beaucoup d'initiatives. Entre autres, tu parlais de la Drôme. Effectivement, nous, on intervient avec les chevaux en débardage pour aider les AMAP bois-bûches drômoises à démarrer, à assumer leur envie. Et ce qui se retrouve en général en manque, ou bien de propriétaires qui veulent prêter des forêts pour faire ces exploitations, ou bien en manque de clients, ou en bien souvent en manque d'exploitants prêts à travailler de manière délicate en forêt. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est formé, en école en tout cas, pour exploiter les bois de manière pas trop violente. Alors nous, on y va et on forme des gars en même temps, des gars locaux qui prendront la relève quand ils se débrouilleront. Et d'autre part, on a aussi participé à l'élaboration dans une école agricole, d'une formation éco-gestionnaire récoltant. C'est à Digne-les-Bains, dans le 05, qui est une formation qui nous a un petit peu échappé, mais qui reste à peu près correcte. Et dans le but de former de manière scolaire des gens prêts à aller dans ce sens de travail. Voilà. Après, les autres filières courtes, ça reste souvent des projets très petits, qui font peu de bruit. Et c'est pour ça qu'on fait des rencontres aussi chaque année, une fois ou deux fois par an, avec le réseau des alternatives forestières. Ça nous permet de rencontrer plein de gens et de faire émerger les initiatives qui existent. Voilà. Et voilà. Donc pour les filières courtes, il y a de l'avenir, ça se met en place. Il faut faire l'effort de communiquer entre nous pour que chacun ne se bat pas dans son coin. Et ensuite, sur la région lyonnaise, on a eu des initiatives de travaux, mais surtout par rapport aux zones périurbaines fluviales, c'est-à-dire là où il y a les ruisseaux, les rivières, où la traction animale était intéressante. Et parfois, le cheval est aussi utilisé pour favoriser des exploitations que la population n'accepterait pas de manière mécanique. C'est là où nous, on doit être très vigilants. Parce que notre image, on doit la conserver, on doit conserver le pourquoi de notre image et ne pas travailler ni pour Areva, ni pour Gardanne, ni pour un déboisement intempestif au nom du cheval. Quoi. Voilà. Donc on a une responsabilité aussi en tant qu'entrepreneur. On ne doit pas faire les cons. Quoi. On doit savoir pourquoi on travaille, comment et pour quel argent.
Je voulais rajouter un autre aspect dans la question. En fait, ce qui se passe, pourquoi on cherche que des arbres de taille modeste, petite, ou relativement petite, c'est que actuellement, il y a M. Sarkozy qui a fait un discours qui était extrêmement important pour l'histoire forestière. C'était à Oromat en 2009, où il a en gros dit que le forêt c'est un trésor qui dort, il faut absolument augmenter l'exploitation, etc. Et il a prôné le parallèle ou le diagonal des méga-scieries. Il a en gros dit qu'il fallait qu'il y ait une méga-scierie maximum genre 100 km partout en France. Et les méga-scieries, ils travaillent 1 million de tonnes par an. Enfin, c'est des gens de trucs comme ça. Et eux, ils achètent les scies Quinter qui coupent 4 côtés à la fois et qui viennent de Scandinavie et qui sont adaptées pour les arbres qui poussent en Scandinavie où il fait beaucoup plus froid et ils poussent pas, ils ont pas des arbres énormes. Et donc, en fait, ils coupent des arbres. Les Douglas, ils sont à peu près bons à 40 ans. Or, il faut savoir que, bon, moi, je connais pas exactement la maturité. C'est au moins 80 ans ou même plus pour un Douglas. Mais ce que j'ai déjà compris de pas mal de gens qui ont parlé de cela, c'est que jusqu'à peu près 70 ans, les arbres pompent dans le sol, pompent en général de l'écosystème, et à partir de 70 ans à peu près, ils vont remettre dans le sol, vous pouvez préciser, mais c'est ce que j'ai entendu, hein, c'est plutôt quand ils sont matures qu'ils commencent à redonner. Et donc, si on coupe trop systématiquement, comme maintenant sur le plateau de Mille Vaches, à 40 ans, on va replanter et on recoupe à 40 ans. C'est systématique là-bas. C'est un peu pour ça que c'est le cas. Et même, il y a des gens au sein du réseau pour les alternatives forestières qui disent qu'il y a vraiment, on pourrait presque l'appeler un créneau. C'est les grands arbres. Vraiment, il faut trouver les scieries capables encore à travailler ces arbres-là, qui sont les plus beaux en plus, avec lesquels on peut faire plein de choses, et qu'il faudrait développer cela.
Alors, il y avait quelqu'un là. Oui, on vous écoute.
Oui, je reviens justement sur ce problème des gros bois. France Nature Environnement, justement, encourage une sylviculture de gros bois. Alors du coup, je m'interroge justement avec la problématique de l'attraction animale par rapport au gros bois. Alors laissons de côté le douglas qui est un peu particulier parce que c'est une essence exotique qui est néfaste à la biodiversité. Mais s'il n'y en a pas trop, c'est supportable. Et puis il fait un bois de qualité. Mais si vous prenez par exemple la forêt de Troncet que beaucoup de gens connaissent dans l'Allier, l'ONF coupe les arbres de plus en plus jeunes. C'est une catastrophe pour la biodiversité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de la biodiversité se trouve après l'âge d'exploitabilité des forêts. Il faut donc des forêts, il faut aussi garder des arbres, des forêts matures. C'est pour ça que dans le cadre de Natura 2000, on fait ce qu'on appelle des îlots de sénescence. L'ONF fait quelques réserves biologiques intégrales, mais très très peu. Les Allemands sont en train de mettre en place 5% de leurs forêts qu'ils n'exploiteront plus. Et puis également, il y a toute la partie du stockage du carbone, puisqu'on a la partie épigée, donc la partie qu'on récolte, mais en fait, dans une forêt naturelle, il y a 60% du carbone qui est dans le sol. Et quand vous faites une coupe à blanc, avec le soleil, c'est comme dans l'agriculture, quand on met des engrais, on a une minéralisation, donc un déstockage de la matière organique, c'est catastrophique. Donc il faut, même avec une sylviculture, jamais avoir de coupe à blanc, il faut toujours qu'on ait un couvert total. Ensuite, la personne qui s'est exprimée a dit quelque chose de faux sur les hêtraies. Je suis membre du CSRPN, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Rhône-Alpes-Auvergne pour l'écologie forestière. Et il se trouve que l'écosystème le plus riche de France, c'est la forêt de la Massane dans les Pyrénées, où sur 300 hectares de hêtraies essentiellement, qui n'ont jamais été exploités depuis 1850, on approche pratiquement des 10 000 espèces. Bien sûr que c'est une forêt qui est, le sol est acide, mais il est naturellement acide. Personne va dire il faut détruire les tourbières parce que c'est acide. Donc c'est naturellement acide, bref. Donc, et puis une dernière chose, ce qui est très importante et ce qui explique pourquoi la forêt française est d'une grande pauvreté, parce qu'elle est maintenue dans un état de jeunesse permanent, à part quelques exceptions, et le volume de bois à l'hectare est deux fois plus important en Suisse et en Allemagne qu'en France.
Je peux juste un peu répondre sur l'histoire de la pertinence de l'attraction animale sur les gros bois. Jusqu'à présent, on a fait des chantiers de très gros bois, entre autres, le plus extrême qu'on ait fait, c'est à Courchevel. Donc, c'était des grands épicéas de 120 ans. C'est des récoltes, bon là, les forêts sont donc jardinées, entre autres, elles sont très touristiques. Ils nous ont demandé de faire un chantier avec les chevaux de manière à minimiser les impacts. Parce que l'épicéa est un arbre en plus très très fragile au niveau des frottements et voilà. Donc notre manière de travailler a permis de à peu près limiter les dégâts à 1 ou 2% de frottements. Et en tracteur, il était pas, on a du mal en général à faire on fait au moins 30% de frottements, voire 50%. Ça veut dire qu'un arbre sur deux est frotté quand on débarde, puisque les arbres sont gros et longs et voilà, les manœuvres sont plus compliquées qu'une machine quand on fait pas de coupe rase. Nous, on fait pas de coupe rase. Donc, la gestion, de toute façon, d'elle-même, se discute pas. C'est une manière, de toute façon, plus propre, même si on n'est pas propre. Voilà. Donc, là, effectivement, la coupe rase, repartir à zéro, comme en agriculture chaque année, chaque saison, c'est une hérésie. Aujourd'hui, on le sait économiquement, techniquement, c'est pas intelligent. On va prendre un exemple. Hein, on parlait du Douglas. Moi, j'adore le Douglas. Je pense que c'est un arbre complètement adaptable dans nos régions. Mais comme tous les autres bois, de toute façon, pas très intéressant en monoculture. Pour faire le malin, je dirais monospécifique équienne. Ça veut dire la même variété, le même âge. Voilà, tout ça, c'est pas très logique. C'est comme les hommes, il faut se mélanger, quoi. Bon. Mais en tout cas, les gros bois, c'est pas un souci dans l'attraction animale. On met les techniques et les efforts nécessaires, le nombre d'animaux nécessaires. Mais après, c'est pas une polémique anti-mécanisation. Parce que avant tout, que ce soit une machine ou un cheval, c'est le chauffeur qui fait que ça se passe bien. Voilà, donc effectivement, on peut aussi avec les machines faire du bon travail. Mais souvent, quand on travaille avec des machines, c'est qu'on a accepté aussi ce système de rendement fondamental, d'argent, qui nous pose un énorme problème journalier. On ne peut pas se permettre de faire des petites récoltes. On est obligé d'avoir des grands rendements. Voilà, donc c'est là le choix est avant tout économique. Aussi savoir proposer son travail à des prix adéquats. Les gens aujourd'hui vendent leur travail deux fois moins cher que nous. C'est pas nous qui sommes trop chers, c'est eux qui sont pas assez chers. Les gens acceptent de travailler pour 10 euros le mètre cube. Nous, on refuse au-dessous de 22 euros. Voilà. Et ça, c'est très important de ce débat-là. C'est un débat social aussi. C'est de toute façon le porte-monnaie qui fera qu'on arrive à décider une écologie forestière ou pas. Voilà. Donc, en tout cas, la traction animale n'a jamais eu de souci avec les gros bois. D'ailleurs, historiquement, on a rasé les États-Unis avec des bœufs et des chevaux. Ça n'a pas été un souci.
Alors, il y avait une question au deuxième rang, là.
C'était pas une question, c'était juste un complément par rapport à la question qui a été posée sur les fêlières courtes et sur le phénomène de canthère. Effectivement, les grandes entreprises sont équipées de canthères et demandent des bois de petit diamètre. C'est aussi parce qu'on a un développement derrière en termes de produits sur des panneaux, du lamellé-collé, du contre-cloué. Enfin, voilà. On a ce qu'on appelle dans le jargon des boîtes techniques. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut privilégier une filière courte, il faut s'orienter plutôt sur une construction en bois massif. En fait, le bois permet certaines choses mécaniquement. Mais c'est vrai qu'on va pas pouvoir faire des grandes portées de 12 mètres avec, alors si, une belle bille, mais bon, quelque part, on va avoir des problèmes de résistance mécanique. C'est vrai que si on veut privilégier la construction bois, plutôt recourir à des systèmes de construction de bois massif et pas forcément recourir à des choses très techniques où vous allez retrouver un certain nombre de colles et quelque part on est en soutien à cette cantérisation, moi j'appelle ça comme ça. Voilà.
Pour préciser, le canter c'est une machine qui débite les bois et c'est des scies circulaires qui coupent les arbres en un seul passage.
Merci. Donc je voulais déjà remercier Ruth Stegazy pour son émission du samedi matin qui...
Et moi qui vous coupe la parole.
Qui me tient compagnie depuis au moins 15 ans, je pense, à peu près. Donc, après, il se trouve que j'ai eu récemment l'opportunité d'acquérir une parcelle de 3 hectares dans la forêt d'Urvar, au-dessus de Chambéry. Et donc, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que je dois faire d'utile avec ces 3 hectares. Est-ce qu'il faut que je les rejoigne un groupement, que je m'intègre dans quelque chose? Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que moi, j'y connais rien pour l'instant. Et j'en ai pas besoin pour vivre, heureusement, donc j'ai pas besoin de couper.
Effectivement, c'est une bonne question, puisque, comme tu viens de le préciser, t'as pas besoin de cette forêt pour vivre. Comme la majeure partie des propriétaires qui ont des forêts, mais qui n'ont pas besoin du revenu forestier pour vivre. C'est pour ça que le fait de ne pas avoir cette pression économique, il n'y a rien qui justifie de s'empresser, il n'y a rien qui justifie de faire d'écouter des techniciens qui nous prônent que, sanitairement, si tu fais pas une grosse coupe dégueulasse, c'est une catastrophe. Donc tu n'as pas à avoir de culpabilité si tu fais rien chez toi. C'est intéressant. De toute façon, il y en a qui s'en occupent de faire quelque chose ailleurs. Par contre, ça peut être un lieu d'accueil, un lieu d'échange. Ça peut être un moment de rencontre avec des gens qui veulent créer autre chose. Et peut-être que tu peux prêter ton terrain, même peut-être pour des réfugiés, on ne sait pas. De toute façon, je trouve que c'est très appréciable parce qu'effectivement, les propriétaires privés sont... On pourrait dire, ils sont responsables de ce qui se passe en forêt privée. S'ils acceptent de faire des coupes monstrueuses, c'est quand même eux qui disent oui ou qui disent non. Quand il y a des besoins économiques importants, les gens se font avoir. Voilà, ça c'est compréhensible. Quand c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, pas besoin d'épargne, il n'y a rien qui explique ce bouleversement de la nature. Voilà. Donc oui, on peut aller chez toi faire un tour si tu veux, mais c'est pas sûr qu'on fera quelque chose.
Je voulais rajouter quelque chose rapidement. Effectivement, Ruth a fait des très très bonnes émissions sur la forêt. Il y avait une émission il y a pas longtemps avec Frédéric Bedel, donc de l'ONF. On n'a pas trop cité l'ONF maintenant, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant. Et il lutte contre la fermeture de la dernière lieu de formation de l'ONF. Voilà, bon. Mais je tiens aussi à faire une petite pub.
Bah, sinon, pour les je peux émissions. Le faire moi.
Mais il y a une raison. En fait, moi aussi, j'ai fait des émissions sur la forêt. Donc, si vous allez sur le site du Réseau pour les alternatives forestières, qui est tout bêtement www.alternativeforestiere.org, alternative et forestière avec un S, vous allez trouver qu'il y a une émission qui s'appelle Entre cimes et racines. Il y a à peu près une vingtaine.
C'est toute une série, oui, c'est pas une émission, c'est une série.
C'est une série d'émissions. Et il y a deux émissions dans cette série qui s'appelle « Devenir propriétaire forestier ». Et donc, c'est en partie des gens qui ont hérité des forêts, sans vraiment imaginer qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Tout d'un coup, ils ont une forêt. Il y a des gens qui ont acheté des forêts parce qu'ils voulaient. Il y a plein de cas de figure. Donc, voilà, ça pourrait être intéressant d'écouter ça. Parce qu'il y en a quand même pas mal de monde qui se trouve dans cette situation-là.
Alors, juste avant de vous écouter, je voudrais signaler aux gens qui sont à ma droite, à notre droite, qu'on ne vous entend pas du tout. Donc, si vous avez des questions à poser, il faudrait aussi... parce que là, c'est... Tout se passe au centre et à gauche. Donc, donc n'hésitez pas. On vous écoute.
Bon. Oui, en qualité de propriétaire forestier, on peut qu'approuver ce que vous avez expliqué, que la forêt française a été très morcelée. Elle s'est morcelée pourquoi ? Elle s'est morcelée surtout au niveau de la... Quand il y a eu la Révolution française et qu'on a supprimé le droit d'aînesse. Et à ce moment-là, les forêts se sont divisées. Se sont divisées d'une manière très importante parce que la forêt, on allait travailler en forêt, on avait besoin du bois pour chauffer. Et puis le bois énergie est passé et était en train de revenir maintenant. Mais ce n'est pas tel but, le but de ce que je voulais dire maintenant. C'est surtout, il y a des mots que je n'ai pas entendus. Il y a par exemple le mot CRPF. Je ne l'ai pas entendu. Il y a aussi l'amour...
Excusez-moi, ce n'est pas un mot, c'est un sigle.
C'est
alors, vous pourriez peut-être le décliner.
Oui,
je n'ai pas dit CRPF parce que je suis poli.
Oui, c'est le centre de la propriété forestière. Il y a également la notion de formation, d'information, de communication des écoles forestières. Et puis, il y a également des mots de coopérative que l'on n'a pas entendu. Et puis, il y a surtout un exposé qui me paraît très intéressant. C'est futaie régulière, futaie irrégulière. Pro-Silva. Voilà des mots que vous pourriez expliciter.
Donc, Pro-Silva, on l'a cité tout à l'heure. Effectivement, c'est l'organisme européen forestier avec lequel on est le plus proche. Parce qu'effectivement, il prône toutes sortes de gestion, mais en tout cas, il prône... Le non coupe rase. Donc, c'est les seuls gestionnaires qui refusent de faire des coupes rases. Alors, Pro-Silva, on a plein de connivences, plein de choses où on est complètement d'accord. Après, personnellement, disons, notre équipe à nous, là où on a un problème avec eux, c'est qu'ils prônent uniquement des activités forestières s'il y a économie financière. Ça veut dire si le chantier tombe au moins à zéro. Et en tout cas, quand il est positif, ils préfèrent évidemment. Et ça, moi, je pense que c'est une erreur grave parce que les forêts provençales, par exemple, ne sont pas adaptées à ce régime de production de bois. Ça veut dire que les forêts provençales, les taillis qui ont été massacrés depuis longtemps, ne peuvent pas être rentables hors coupe rase, financièrement, je parle. Biologiquement, elles sont très rentables. Et donc là, la technique Pro-Silva ne permet pas de travailler dans ces forêts-là. Moi, je pense qu'il y a des forêts où il faut investir d'énergie, investir du travail. Et ça, c'est le grand débat. Ça veut dire qu'il y a au moins... Peut-être que je ne suis pas assez vieux pour le savoir, mais je pense qu'il y a au moins une génération qui doit se sacrifier pour arriver à redynamiser certains massifs qui pourront un jour faire vivre des gens sans les massacrer. Voilà, cet équilibre-là, il faudra le trouver. Donc, c'est le seul désaccord que j'ai avec Pro-Silva, donc cette histoire économique. Ensuite, quand tu parles du CRPF, pour moi, le CRPF, c'est simplement, à quelques exceptions près, c'est simplement un rabatteur de subventions pour les gens. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Aujourd'hui, le CRPF, c'est le premier meneur pour dégager, faire exploiter les forêts dans n'importe quel endroit inaccessible. Mais quand il parle de forêt, il parle de plantation, il ne parle pas de forêt. Nous, on a des gros débats, des grosses polémiques chez nous en Ardèche, en Haute-Ardèche, parce qu'ils nous ont mis un gars en permanence pour arriver à décloisonner la forêt, décloisonner dans le sens, justement, faire des regroupements forestiers pour permettre une exploitation plus massive des bois. Il faut savoir que pour accéder en forêt, on fait des pistes. Pour faire ces pistes, il y a des subventions à 90%, à condition que ces pistes, donc c'est des routes forestières, c'est plus des pistes, accèdent à des routes départementales accessibles aux poids lourds. Chez nous, il y a 15% des routes qui sont accessibles aux poids lourds. Donc vous imaginez la taille des pistes pour rejoindre ces putains de routes. C'est scandaleux. Ensuite, les pistes elles-mêmes, les propriétaires sont expropriés et les pistes deviennent communales. Donc c'est à la commune de gérer l'entretien de ces pistes. C'est encore inacceptable. Ça veut dire que le propriétaire, en gros, se fait soutenir financièrement pour pouvoir accéder à ses parcelles, les faire exploiter. Il a déjà eu des soutiens pour les planter, pour les premiers entretiens. Voilà. Si tu as une châtaignerie très dégradée, tu n'as pas un coup de main pour faire un chemin. Voilà. Tout ça, c'est très directif. De toute façon, la subvention, c'est un outil directif pour faire aller la forêt, l'agriculture, le bâtiment dans le sens qu'on décide, que décident les autorités. Certaines autorités ne sont pas toujours bienveillantes. Et par exemple, en ce moment, les plus forts, c'est les lobbies de consommation du bois industriel qui nous imposent certaines normes, entre autres dans le bâtiment, qui nous obligent à avoir des bois issus de plantations. Et c'est vrai, le bois local n'est pas permis dans le bâtiment si on veut suivre les normes. C'est directif et c'est scandaleux. Ça nous pousse à aller vers une manière de travailler la forêt qui va être une manière uniquement intensive. C'est pas anodin, ce comportement. Ce comportement de rabatteur tel que le CRPF se le permet, c'est pas anodin. Et je pense que beaucoup de techniciens du CRPF sont pas très à l'aise avec ce qui se passe sur la forêt.
Voilà, juste deux choses à rajouter. ProSylvain, ce qui nous pose problème aussi, en fait, il s'intéresse énormément à comment on gère la forêt. Ça, c'est clair et c'est intéressant. Mais le condition des travailleurs dans la forêt, c'est nettement moins, et notamment l'aval. En fait, ça ne les intéresse pas du tout qu'est-ce qu'on fait avec le bois. Et nous, on trouve avec le RAF, le Réseau pour les Alternatives Forestières, il faut s'intéresser au tout. Et donc, les circuits courts et compagnie. Nicolas Luigi, qui est le responsable de ProSylva de notre région, il est complètement d'accord de vendre du bois à E.ON pour Gardanne. Aucun problème du moment que c'est payé le prix qu'il demande. Ça ne l'intéresse pas. Et je tiens à dire un peu la même chose avec le CRPF. Je pense qu'il y a des gens très bien dans la CRPF. C'est comme avec l'ONF. Il y a beaucoup de pressions qui viennent maintenant. Il y a des gens malheureux à l'ONF, mais vraiment, beaucoup de suicides et des détresses. Parce que les gens, ils sont poussés à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Parce que c'est des gens qui adorent la forêt. Et voilà, c'est leur passion. CRPF, ça existe aussi. Mais le CRPF de la région PACA, des Bouches-du-Rhône, est un des meilleurs alliés d'E.ON. Et ils sont complètement pour la mise en place de ce central et comme nouveau marché, si on veut. Et il faut dire que le photo, ça passait trop vite avant, mais il y avait un coupe rase, deux photos d'un coupe rase chez nous, dans la montagne de Lure, dans ce fameux domaine qu'on n'a pas réussi à sauver à l'époque. C'est 1000 hectares, 1100 hectares, domaine privé. Donc, logiquement, plan simple de gestion. C'est le CRPF qui a marqué ces arbres, qui a prouvé ces coupes. Après, il y en a des gens à la CRPF qui rament contre ça.
Question suivante ou
c'était juste un petit compliment, puisque beaucoup de choses ont été dites sur le CRPF. Effectivement, c'est loin d'être parfait. J'ai l'impression que le Rhône a un petit peu un village gaulois, parce qu'on a quelques techniciens du CRPF qui sont vraiment impliqués et qui, eux, par exemple, sur des forêts de taillis, prônent la biodiversité, sont beaucoup plus doux en intervention. Et face à eux, on n'a pas trop le choix parce que dans la forêt privée, c'est les seuls qui sont censés, en tout cas quelques-uns, en tout cas les techniciens, d'avoir un peu d'objectivité. Après, on a en face de nous des commerciaux et c'est le problème qu'on a avec certaines coopératives où les gens viennent et en fait... ils sont complètement intéressés puisqu'ils vont acheter le bois. Donc ils poussent de façon très forte et très violente à la coupe rase.
Je tenais juste à préciser pour la polémique qui est un peu soulevée sur le... On ne défend pas une chapelle. En fait, moi, je travaille avec l'ONF, avec le CRPF, avec la forêt, avec les coopératives, avec tous ceux qui se présentent. Ce n'est pas un problème. Après, quand je dis on travaille, ça veut dire qu'avant de déclencher un chantier... on polémique, on discute, on veut savoir pourquoi le bois il est pris, pourquoi le bois il est exporté, pas exporté, et tout ça, ça fait qu'on décide après, on fait le chantier, on fait pas le chantier. Voilà, c'est important de le préciser parce que voilà, nous on a toujours travaillé avec tous les membres forestiers parce que c'est important de pas s'isoler, c'est important d'être avec eux aussi parce que on n'a pas toujours raison, ils ont pas toujours raison. Et voilà, la polémique est intéressante, le débat est intéressant. Voilà, donc c'est important hein, pour nous, il y a pas de scission entre tous les acteurs forestiers. Il y a des bonnes engueulades, mais il n'y a pas de scission. Et tous les propriétaires, il n'y a pas de... C'est pareil, on ne cherche pas à acculer les gens en leur disant « Vous avez tort ce que vous faites ». Non, leur dire simplement « Il y a d'autres solutions, il y a des endroits, il y a des courants d'air, ça vaut le coup de les choper des fois. » Voilà, il y a d'autres initiatives, voilà, c'est tout.
Avant que petit à petit des gens partent, je voulais juste insister un peu sur le fait qu'il y a un livre là, au fond, là, qui est un livre publié par le réseau. Donc... au fond, c'est un portrait d'acteurs. Il y a une dizaine de groupes ou de personnes qui sont présentées dedans. avec leur démarche, entre autres la ferme de Trenas où Lolo il habite. Mais il y a aussi un chapitre, je pense à vous, mais parce que quand on a parlé de la sous-exploitation de la forêt, au début, il y a 6 idées reçues. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais en tout cas, il y a une réponse à ça. Une des 6 idées reçues marquées là, c'est que la forêt est sous-exploitée. Et il y a une réponse par la suite, pourquoi on n'est pas d'accord avec ça. Donc peut-être c'est intéressant de lire ça. Voilà.
Oui, une question au premier rang.
Il faudrait nous expliquer clairement, parce que ça n'a pas été fait depuis le début.
Plus près le micro.
Qu'est-ce que c'est que ce réseau des acteurs de trucs? Parce que ça n'a pas été clairement expliqué.
Oui, moi je peux dire quelques mots rapides, mais le réseau pour les alternatives forestières, tu veux savoir plus là-dessus. Donc j'avais dit un tout petit peu avant, c'était en 2008, que quelqu'un qui s'appelle Gaëtan Debus, qui est ingénieur forestier dans l'Aude, un peu atypique parce qu'il veut vraiment travailler voilà, bien comme lui le souhaite, quoi, avec des propriétaires. Donc il cherche des propriétaires avec qui il peut travailler. Et dans sa carrière, il a 40 ans, c'est pas très très long, mais il a rencontré plein de monde. Et surtout, il a compris qu'il y a un gros isolement de gens qui essayent de faire autrement. Par exemple, de refuser des coupes rases, ils ont économiquement en difficulté parce que c'est beaucoup moins cher que de couper plein d'arbres d'un coup, que de faire un travail très soigné dans la forêt, etc. Par exemple, pour le bois de chauffage chez nous, etc. Donc, il a vu qu'il y a des initiatives un peu partout qui essayent de faire quelque chose d'autre dans la forêt, des alternatives, si on veut l'appeler comme ça, mais qui ne sont absolument pas reliées entre eux. Après, il faut dire que ce n'est pas du tout comme l'agriculture en France. Il n'y a pas un débat en France, au fond, sur la forêt. Et c'est pas du tout. C'est quand même 30% du territoire. C'est le deuxième poste d'importation en France. En gros, les gens, ils aiment beaucoup la forêt. Ils adorent la forêt. Ils sont passionnés par la forêt, mais ils ont très peu d'idées qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et quelles sont les menaces ou alors les perspectives plus intéressantes. Et c'est pour ça qu'il a fait une première rencontre en 2008 à Sainte-Afrique. On n'était que 25. Et c'est là où on a décidé de créer un réseau et qui a resté que le sud de la France pendant assez longtemps. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus grand. Il y a des gens en Bretagne, en Bourgogne, en Limousin, partout. Très différents. Ça va de propriétaires de forêt, amoureux de la forêt, menuisiers, scieurs, bûcherons.
Luthiers.
Un peu tout, quoi. Et donc, il y a plusieurs axes de travail. Un axe très important actuellement, c'est le foncier. Parce qu'on est en train de voir comment, collectivement, des gens peuvent acheter des forêts pour les mettre à l'abri de la destruction, mais aussi pour faire des groupements forestiers avec une vision commune. Mais aussi comment des gens qui n'ont peut-être pas envie ou qui n'ont pas les moyens d'acheter des forêts, ils puissent avoir des contrats à très long terme avec des propriétaires pour qu'on puisse travailler dans une forêt et savoir que les prochains 50 ans, on ne va pas venir faire un coupe rase qui détruit tout ce qu'on a fait. Parce que ça arrive tout le temps. Des gens qui font un travail magnifique, après le propriétaire, soit il meurt, soit il change d'avis, soit il vend, et tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre qui arrive et il casse tout et c'est fini, quoi. Donc ça, c'est un. Il y a la formation, qui est très, très importante. Il y a la sensibilisation à travers, par exemple, les émissions radio, mais aussi des rencontres, des livres, plein de choses. Il y a sans doute plein d'autres choses. En tout cas, il y a un site qui est assez complet, quoi, qui est assez bien fait, qui s'appelle donc alternativeforestier.org. Et voilà, je vous incite à aller voir ça.
Alors, moi qui suis de Bourgogne, on a aussi l'association Auxois-Morvan Écologie qui se bat contre les résineux et qui a acheté des forêts. Enfin, on peut prendre des parts dans la forêt de Bourgogne.
Oui, le problème de fond, il est économique. C'est que toutes les études montrent que le bois... Si on prend toutes les fonctions d'une forêt, le bois ne représente que 30% de ce que rapporte une forêt. Et les 60% restants, c'est les deux autres tiers, c'est tout le côté récréatif, c'est-à-dire les randonnées, les gens qui vont aux champignons, etc., etc., donc les sorties en forêt, même la chasse. Et les 30 autres pourcents, ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire la protection de la ressource en eau, les paysages, le carbone, le stockage du carbone, la biodiversité, etc. Donc quand vous avez le problème des particuliers qui ont des petites parcelles qui vont être, par exemple, des petites parcelles boisées dans des zones très pentues où l'exploitation n'est pas possible du fait que c'est inaccessible, le coût de la piste, comme ça a été dit, le bois ne paierait pas le coût de la piste, etc. Ces gens n'ont pas de rémunération. Il faut absolument, si on veut faire une véritable multifonctionnalité forestière, payer également les autres services de la forêt, les aménités. Actuellement, la seule chose que l'on paye, c'est la production de bois qui est subventionnée. Mais jamais on va subventionner un propriétaire alors que sa forêt n'est pas exploitable et elle se trouve, par exemple, au bord du lac d'Annecy et ça serait une catastrophe pour un paysage ou pour autre. Donc c'est ça le gros problème.
Je sais pas, mais moi ça m'inquiète un peu quand vous parlez comme ça, parce que je trouve que le problème, c'est peut-être justement de vouloir tout regarder à l'aune de l'économie et de vouloir que tout soit rémunéré, les écosystèmes, etc. Bon, je suis pas toute seule. Je pense que justement, ce qui est important, c'est de commencer à accepter et à en être heureux du fait que la forêt a d'autres dimensions et que la dimension économique n'est qu'une des dimensions.
Si on suit votre raisonnement, ça veut dire que dans les zones Natura 2000 où on supprime les impôts fonciers des propriétaires qui renoncent à couper leurs arbres pour la biodiversité, vous y êtes opposé. Enfin, ça tient pas debout. Je vois pas pourquoi que des gens qui ont une forêt qui n'est pas exploitable, ils pourraient pas, par rapport aux services rendus à la collectivité, pourquoi les subventions n'iraient que à faire des pistes et souvent des exploitations non rentables. Ça me choque pas. Je vois pas pourquoi on pourrait choquer des gens vertueux. Je veux dire, pourquoi on serait choqué du fait que des gens qui veulent préserver leurs forêts, puisque ce qui manque, c'est des forêts protégées. Et je veux dire une dernière chose au sujet de l'ONF. L'ONF, on va créer en région Bourgogne un parc national de plaine. Ça avait été décidé il y a quelques années. De 70 000 hectares. L'exploitation forestière, la chasse, seront pratiquées. Mais sur 70 000 hectares, il y a 3 000 hectares qui seront en réserve biologique intégrale. Mais l'ONF veut couper tous les gros chênes avant que ce soit protégé. C'est un scandale. Nous nous battons avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Ils veulent abattre les gros chênes avant que ce soit protégé parce qu'il faut payer la retraite des fonctionnaires de l'ONF.
Il y a actuellement, et vous avez raison, une direction absolument scandaleuse à l'ONF. Et de fait, il y a énormément d'employés de l'ONF qui souffrent aujourd'hui et qui se battent et qui luttent contre leur direction et contre les décisions prises par leur direction qui toutes vont dans le sens de la destruction et de la livraison aux forces économiques, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Une ou deux dernières questions?
En tout cas, sur les subventions, il y a juste un truc, c'est pas de savoir où sont allouées les subventions, c'est simplement qu'il faudrait abolir les subventions, parce que c'est une fausse économie sur le dos de tout le monde.
Bonjour, je suis agriculteur et dans le cadre de l'agriculture, on touche des mesures, enfin, on peut être rémunéré pour des mesures agri-environnementales et climatiques qu'on met en place sur nos exploitations. Et pour aller un peu dans le sens de monsieur, pourquoi pas mettre en place des mesures agri-environnementales et climatiques pour l'exploitation des forêts?
Moi, je pense que simplement aujourd'hui, les gens qui veulent avoir une gestion forestière différente et en tout cas équilibrée, n'ont pas besoin de subventions pour le faire. C'est un choix personnel, c'est un choix fondamental. Nous, dans nos démarches forestières, on a refusé toutes les subventions aussi pour affirmer qu'il est possible de le faire sans subvention. Et c'est très important parce que effectivement, si on le fait parce qu'on a des millions cachés dans quelque part, évidemment, c'est plus simple. Aujourd'hui, nous, on a 100 hectares de forêt en propriété collective qu'on gère. Et sur ces 100 hectares, aucune subvention n'est rentrée. Voilà, il n'y a pas besoin d'aide pour faire ce qu'on fait. Il faut avoir l'intelligence de trouver les revenus disponibles dans toute la filière pour que ça fonctionne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, de ne pas cloisonner aussi les rendements, pas cloisonner les rendements économiques. Il y a des parcelles qui ne vont pas être économiques, financièrement parlant, mais qui vont être très intéressantes dans la formation, dans la pédagogie avec les gens. Voilà, il y a d'autres parcelles qui vont apporter des bois qui vont permettre de faire une transformation de sciage et éventuellement une charpente. Dans ce cas-là, il y a un vrai revenu. C'est 1500 fois plus au mètre cube ce qu'on gagne en charpente qu'en forêt. Je veux dire, c'est pas normal. Donc si on met cette économie ensemble, ce que nous on arrive à faire, donc d'autres peuvent arriver à le faire, ça fonctionne.
Ce que dit Lolo sur la forêt, c'est également vrai en agriculture. Il y a aujourd'hui énormément de vieux agriculteurs qui se sentent complètement piégés par le système de subventions dans lequel ils sont, de primes qui les étranglent et pour lesquelles ils sont obligés de faire des tas de choses qu'ils n'aimeraient pas faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de jeunes agriculteurs qui s'installent sans subventions et en ne les réclamant pas et même en les refusant. Voilà, on a terminé, on a parlé de la forêt, on est arrivé sur l'agriculture. Il y a juste Nick qui va vous dire un petit mot. Et ah, voilà, là. Allez, c'est l'ultime.
Justement, juste pour dire merci à la qualité des intervenants et principalement aussi, notamment, merci à Red Stegassi pour toutes ces émissions merveilleuses et pour les 5 dernières émissions sur l'extractivisme, justement.
On cherchait les auditeurs, on les a trouvés.
Merci beaucoup. Voulais juste dire, je pense que, enfin, Lolo, il a peut-être pas dit assez, mais bon, peut-être c'est pas lui à le dire, mais c'est assez incroyable quand on arrive à faire un circuit court, comme eux, ils font ça presque tous chez eux, mais ça pourrait être des petites entreprises dans un coin. Il y a une valeur qui sort du bois quand on fait des meubles et une charpente et on maîtrise tout ça, qui est assez phénoménal quand même. Et je pense que c'est exactement la même chose que l'agriculture quand on fait des produits finis au lieu de juste vendre le litre de lait, quoi. Donc c'est vraiment vers là qu'il faut aller, à mon avis. Allez.
Voilà, faut juste partager.
Merci à tous et bonne continuation. Au revoir.